assurance de paix réitérée. Tout était tranquille maintenant, aucune raison d'avoir peur. Il l'embrassait. Elle se déclara pour la République, comme avait déjà fait Monseigneur l'archevêque de Paris, et comme devait faire avec une prestesse de zèle merveilleuse la magistrature, le Conseil d'État, l'Institut, les maréchaux de France, Changarnier, M. de Falloux, tous les bonapartistes, tous les légitimistes et un nombre considérable d'orléanistes. La chute de la monarchie avait été si prompte que la première stupéfaction passée, il y eut chez les bourgeois comme un étonnement de vivre encore. L'exécution sommaire de quelques voleurs, fusillés sans jugement, parut une chose très juste. On se redit, pendant un mois, la phrase de Lamartine sur le drapeau rouge, qui n'avait fait que le tour du Champ de Mars, tandis que le drapeau tricolore, etc. Et tous se rangèrent sous son ombre, chaque parti ne voyant des trois couleurs que la sienne, et se promettant bien, dès qu'il serait le plus fort, d'arracher les deux autres. Comme les affaires étaient suspendues, l'inquiétude et la badonnerie poussaient tout le monde hors de chez soi. Le négligé des costumes atténuait la différence des rangs sociaux. La haine se cachait, les espérances s'étalaient, la foule était pleine de douceur. L'orgueil d'un droit conquis éclatait sur les visages. On avait une gaieté de carnaval, des allures de bivac. Rien ne fut amusant comme l'aspect de Paris les premiers jours. Frédéric prenait la maréchale à son bras, et ils flânaient ensemble dans les rues. Elle se divertissait des rosettes décorant toutes les boutonnières, des étendards suspendus à toutes les fenêtres, des affiches de toutes couleurs placardées contre les murailles, et jetait çà et là quelques monnaies dans le tronc pour les blessés, établies sur une chaise, au milieu de la voie. Puis, elle s'arrêtait devant des caricatures qui représentaient Louis-Philippe en pâtissier, en saltimbanque, en chien, en sangsue. Mais les hommes de Cossidière, avec leurs sabres et leurs écharpes, l'effrayaient un peu. D'autres fois, c'était un arbre de la liberté qu'on plantait. Messieurs les ecclésiastiques concouraient à la cérémonie, bénissant la République, escortés par des serviteurs à galons d'or. Et la multitude trouvait cela très bien. Le spectacle le plus fréquent était celui des députations de n'importe quoi, allant réclamer quelque chose à l'hôtel de ville, car chaque métier, chaque industrie, attendait du gouvernement la fin radicale de sa misère. Quelques-uns, il est vrai, se rendaient près de lui pour le conseiller ou le féliciter, ou tout simplement pour lui faire une petite visite et voir fonctionner la machine. Vers le milieu du mois de mars, un jour qu'il traversait le pont d'Arcole, ayant à faire une commission pour Rosanette dans le quartier latin, Frédéric vit s'avancer une colonne d'individus à chapeau bizarre, à longue barbe. En tête et battant du tambour, marchait un nègre, un ancien modèle d'atelier, et l'homme qui portait la bannière sur laquelle flottait au vent cette inscription « Artiste peintre » n'était autre que Pellerin. Il fit signe à Frédéric de l'attendre, puis reparut 5 minutes après, ayant du temps devant lui, car le gouvernement recevait à ce moment-là les tailleurs de pierre. Il allait, avec ses collègues, réclamer la création d'un forum de l'art, une espèce de bourse où l'on débattrait les intérêts de l'esthétique. Des œuvres sublimes se produiraient, puisque les travailleurs mettraient en commun leur génie. Paris, bientôt, serait couvert de monuments gigantesques. Il les décorerait. Il avait même commencé une figure de la République. Un de ses camarades vint le prendre, car ils étaient talonnés par la députation du commerce de la volaille. « Quelle bêtise !» grommela une voix dans la foule. « Toujours des blagues, à rien de fort !» C'était Regimbard. Il ne salua pas Frédéric, mais profita de l'occasion pour y pendre son amertume. Le citoyen employait ses jours à vagabonder dans les rues, tirant sa moustache, roulant des yeux, acceptant et propageant des nouvelles lugubres. Et il n'avait que 2 phrases. « Prenez garde, nous allons être débordés !» Ou bien « Mais sacrebleu, on escamote la République !» Il était mécontent de tout, et particulièrement de ce que nous n'avions pas repris nos frontières naturelles. Le nom seul de Lamartine lui faisait hausser les épaules. Il ne trouvait pas le Trurolin suffisant pour le problème, traita Dupont de l'Eure de vieille ganache, Albert d'idiot, Louis Blanc d'utopiste, Blanqui d'homme extrêmement dangereux, et quand Frédéric lui demanda ce qu'il aurait fallu faire, il répondit en lui serrant le bras le broyé. « Prendre le Rhin, je vous dis, prendre le Rhin, fichtre !» Puis il accusa la réaction. Elle se démasquait. Le sac des châteaux de Neuilly et de Suresnes, l'incendie des Batignolles, Les troubles de Lyon, tous les excès, tous les griefs, on les exagérait à présent, en y ajoutant la circulaire de Ledru-Rollin, le cours forcé des billets de banque, la rente tombée à 60 francs. Enfin, comme iniquité suprême, comme dernier coup, comme surcroît d'horreur, l'impôt des 45 centimes, et par-dessus tout cela, il y avait encore le socialisme. Bien que ces théories, aussi neuves que le jeu de loi, eussent été depuis 40 ans suffisamment débattues pour remplir des bibliothèques, elles épouvantèrent les bourgeois comme une grêle d'aérolites, et on fut indigné, en vertu de cette haine que provoque l'avènement de toute idée parce que c'est une idée, exécration dont elle tire plus tard sa gloire, et qui fait que ses ennemis sont toujours au-dessous d'elle, si médiocre qu'elle puisse être. Alors, la propriété monta dans les respects au niveau de la religion et se confondit avec Dieu. Les attaques qu'on lui portait parurent du sacrilège, presque de l'anthropophagie. Malgré la législation la plus humaine qui fut jamais, le spectre de 93 reparut et le couperet de la guillotine vibra dans toutes les syllabes du mot « république », ce qui n'empêchait pas qu'on la méprisât pour sa faiblesse. La France, ne sentant plus de maître, se mit à crier d'effarement, comme un aveugle sans bâton, comme un marmot qui a perdu sa bonne. De tous les Français, celui qui tremblait le plus fort était M. d'Ambreuse. L'état nouveau des choses menaçait sa fortune, mais surtout dupait son expérience. Un système si bon, un roi si sage, était-ce possible? La terre allait crouler. Dès le lendemain, il congédia trois domestiques, vendit ses chevaux, s'acheta, pour sortir dans les rues, un chapeau mou, pensa même à laisser croître sa barbe. Elle restait chez lui, prostré, se repaissant amèrement des journaux les plus hostiles à ses idées, et devenu tellement sombre que les plaisanteries sur la pipe de Flocon n'avaient pas même la force de le faire sourire. Comme soutien du dernier règne, il redoutait les vengeances du peuple sur ses propriétés de la Champagne, quand l'élucubration de Frédéric lui tomba dans les mains. Alors il s'imagina que son jeune ami était un personnage très influent et qu'il pourrait, sinon le servir, du moins le défendre, de sorte qu'un matin, M. d'Ambreuse se présenta chez lui, accompagné de Martinon. Cette visite n'avait pour but, dit-il, que de le voir un peu et de causer. Somme toute, il se réjouissait des événements, et il adoptait de grand cœur notre sublime devise, liberté, égalité, fraternité, ayant toujours été républicain au fond. S'il votait, sous l'autre régime, avec le ministère, c'était simplement pour accélérer une chute inévitable. Il s'emporta même contre M. Guizot, qui nous a mis dans un joli pétrin, convenons-en. En revanche, il admirait beaucoup Lamartine, lequel s'était montré